Salut, salut les copinous! Aujourd'hui, je suis trop content, on va parler du meilleur studio du monde. C'est parti!
Allez du cinéma! Allez du cinéma,
bonjour! Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui sont sympas, aujourd'hui dans le meilleur podcast cinéma. Marvel a encore plein de jolis projets dans sa hotte, comme un Père Noël avant l'heure. On décortique ensemble tout ce qui arrive et pourquoi j'ai vraiment trop hâte de voir ces nouveaux films. À côté de ça, c'est lundi, c'est le bistrot d'Andrew, où 4 personnes viendront à nouveau nous parler de films qu'ils adorent, et quand on aime, vous le savez, on ne compte pas. Et bien entendu, il y aura la question du public et un film sorti sur mon site préféré, à savoir Netflix, Le Salaire de la Peur, qui paraît-il est adapté d'un vieux film, mais je connais pas. Et voilà, c'est le meilleur podcast cinéma avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci beaucoup aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, pas aujourd'hui mais habituellement. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux, que ce soit dans son format podcast, sur Spotify, sur iTunes ou même sur YouTube avec la cloche. Le meilleur podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec le sujet du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Et si on parlait de Marvel aujourd'hui ? J'espère que ça vous va, parce que sinon j'avais un top 10 des meilleurs chiens au cinéma, je sais pas d'où elle sort cette idée. Ça commence à faire un moment qu'on n'a pas eu de film Marvel au cinéma, et ça se sent. Quand on regarde les films qui sont à l'affiche en ce moment, ça fait pas particulièrement envie, on a envie que les super-héros reviennent. Puis au moins quand ils sont là, le box-office se porte bien. Alors oui, je vois des gens critiquer Marvel, mais si vous pensez que c'est avec vos films d'auteur qu'on va sauver le cinéma... Faut être réaliste à un moment. Heureusement, ça fait plusieurs semaines que pleuvent les annonces concernant les futures propositions du meilleur studio de cinéma. Et je sais que c'est pour ça aussi que vous me suivez, pour avoir ce genre d'infos en exclusivité. Je sais qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres blockbusters aussi. D'ailleurs, dans l'émission de mercredi, on parlera de King Kong contre Godzilla. J'ai vraiment trop hâte de le voir. Je vous ai déjà dit à quel point j'adore King Kong. Alors niveau Marvel, on va parler aujourd'hui des films de la phase 5 qui va démarrer avec le prochain qui s'appelle Deadpool and Wolverine, dont je vous avais déjà parlé du trailer. C'est bon, Deadpool va enfin s'intégrer au MCU, il va pouvoir devenir l'Avengers qu'il mérite d'être. On n'a pas eu de nouvelles images, mais je sais que tout ce qu'on attend, vous et moi, c'est d'avoir enfin Wolverine en action. Je suis tellement content qu'il soit de retour. J'avais vraiment pas aimé quand il l'avait tué dans Logan. Puis j'adore Hugh Jackman. Vous avez vu The Greatest Showman ou pas? J'ai vu les chorés sur TikTok, ça a l'air trop bien. On n'a pas eu encore de grosses infos concernant Deadpool and Wolverine. On sait que plein de Deadpool seront présents dans le film, hein, ça va jusqu'au chien de Deadpool, il est trop mignon. Mais il y aura aussi Lady Deadpool, sa version féminine, qui sera interprétée par la fiancée de Ryan Reynolds, Blake Lively, que vous connaissez sûrement parce qu'elle jouait dans la super série Gossip Girl. D'ailleurs, à l'époque de Gossip Girl, vous étiez plutôt Team Serena ou Team Blair. N'hésitez pas à le dire en commentaire avec le hashtag Team Serena ou hashtag Team Blair. Et malheureusement, à part ça, c'est un peu tout ce qu'on a comme info concernant Deadpool, mais vous inquiétez pas, je vais rester à l'affût et on va passer au film suivant qui s'appelle Captain America Brave New World. Captain America Brave New World est prévu pour sortir en février 2025 et il est la suite de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Une série que vous devez absolument voir d'ailleurs, parce que ce serait con d'aller voir les films sans regarder les séries avant. Abonnez-vous à Disney+, il y a plein de séries super à voir dessus. On connaissait déjà une partie du casting, avec notamment Harrison Ford, mais on a appris aussi récemment que Mark Ruffalo ferait son retour dans le film en interprétant son personnage iconique de Hulk. Et en fait, non. La news a été rapidement démentie ensuite par un média qui s'appelle Variety et qui aurait eu du mal à retranscrire une interview. Bref, alors mystère, est-ce que Hulk sera dedans ou pas? Moi je pense qu'il apparaîtra dans une scène post-générique, c'est toujours là où ils mettent les meilleurs trucs de toute manière. D'ailleurs, j'en avais parlé, mais si jamais ça vous intéresse que je vous fasse un top 10 des meilleures scènes post-génériques des films Marvel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a quand même eu droit à un premier visuel qui a leak avec Anthony Mackie, où on peut le voir avec le bouclier et ses grandes ailes, histoire de nous faire saliver pendant l'année d'attente qu'il nous reste. Et dernière news, ça c'est pour les fans de catch, parce que j'y connais rien, mais il paraît que ça plaît à des gens. Le catcheur Seth Rollins devait apparaître à l'intérieur du film, il a même été absent des rings pendant un bon moment, et en fait, visiblement, il a été entièrement coupé du film. De toute façon, je pense que c'est pas très grave, le seul catcheur qui s'est vraiment joué, c'est The Rock, donc on va pas non plus... C'était quoi ça? Alors passons au film dont les news sont les plus fraîches, à savoir Thunderbolts, le film le plus attendu de cette phase 5. C'est une sorte de Suicide Squad chez Marvel qui va reprendre tous les méchants les plus iconiques de la saga, comme celle de Ant-Man 2 par exemple. Le tournage a officiellement démarré le 26 février et devrait continuer jusqu'en juillet 2024 sous la direction de Jacques Schreier. Jacques Schreier, c'est un réalisateur qui à la base vient du cinéma indépendant, il avait fait un petit film en 2012 je crois qui s'appelait Robot and Frank. Enfin ce réalisateur peut rentrer dans la cour des grands et faire un vrai film. Je suis trop content pour lui. Et pour le coup, ça c'est une vraie news, on a eu une première image exclusive du plateau présentée par une des comédiennes du film, Florence Pugh, qui a fait justement une petite vidéo sur le tournage, jusqu'à ce qu'on aperçoive même une station de montage avec une image d'elle en costume dessus. C'est la hype qui monte à mort. Et alors, vous avez été beaucoup à me demander pourquoi il y a une station de montage sur le plateau. Alors, je savais pas, je me suis renseigné, mais visiblement, sur ce genre de tournage, ça permet soit de stocker les rushs, soit, par exemple, de faire des tests d'étalonnage pour voir comment les couleurs vont rendre, soit ça permet, au contraire, de prémonter certaines scènes pour pouvoir les montrer aux producteurs qui vont rendre visite au plateau. C'est eux qui payent, c'est normal qu'ils puissent regarder les images afin de pouvoir recadrer un réalisateur qui voudrait en faire un peu trop cassette. Il y a comme un truc qui picote. Enfin, dans la phase 5, il y aura les 4 Fantastiques, dont les premières annonces sont toutes récentes et dont le tournage devrait commencer cet été à Londres. Paraît d'ailleurs que Pedro Pascal a vraiment hâte d'y aller et qu'il a terminé assez rapidement le tournage de la saison 2 de The Last of Us 2. Assez rapidement. Clin d'œil, clin d'œil. On savait que les 4 Fantastiques allaient se dérouler dans les années 50, mais on apprend aussi ces derniers jours que le film se déroulera dans un univers alternatif. Ce qui est logique, à la fin de The Marvels, on voyait un univers parallèle avec les X-Men, et je pense que le but, c'est que au moment où il y aura Avengers 5, tous les univers parallèles se reconnectent ensemble pour qu'ils puissent lutter contre un ennemi commun. Mais avant Avengers 5, il y aura aussi le film Blade, alors dont on n'entend pas des super bons retours, parce que visiblement, les premiers scénaristes voulaient en faire qu'à leur tête et pas comprendre que Marvel, bah, c'est un univers interconnecté, faut arrêter de penser en mode je veux faire le meilleur film. Non, faut faire le meilleur épisode à l'intérieur de la saga, sinon ça marche pas. Et c'est sans compter aussi toutes les séries, on va avoir plein de trucs à regarder, parce qu'il y a aussi Wonder Man et Iron Heart qui sont en montage, il y a Agatha terminé, il y a Daredevil qui est en, et puis il y a tous les autres projets comme Spider-Man 4, comme Shang-Chi 2, comme il s'est passé quoi là? Alors attends, c'est quoi ça? C'est mon texte ça? Merde, j'ai oublié d'écrire une conclusion. Merde. On va faire la conclusion. Allez, c'est parti. Ce qu'on voit bien avec tous ces projets, c'est que Marvel n'a pas arrêté son entreprise mortifère qui consiste à en faire toujours plus, quitte à saigner ses licences et à les faire détester par le plus grand nombre. Le problème, c'est que rien ne va là-dedans. Deadpool a jamais eu un film réussi, Captain America est devenu un spin-off série B, et Thunderbolts, putain, on essaye même de nous faire croire qu'il y avait des méchants iconiques dans les sous-Marvel qui se rappellent de la méchante de Ant-Man 2. Le seul truc qui peut faire envie, à la limite, c'est le film des 4 Fantastiques, mais même ça, ils sont capables de le flinguer avec leur univers interconnecté, et c'est sans parler de toutes les séries aussi qui vont nous tomber sur le rable. Je sais pas si vous réalisez, mais si Blade se fait, ça veut dire que pendant l'année 2025, on va avoir 4 films Marvel sans compter toutes les séries. On va avoir des produits Marvel tous les mois et demi. C'est plus un événement, un produit Marvel, c'est une bouteille d'oxygène remplie de formol. T'ajoutes à ça les produits Star Wars, à la fin, c'est pas le cinéma qui y gagne. C'est les actionnaires, trop contents de se fourrer les poches avec leurs dividendes, gagnés sur le dos de fans de comics désœuvrés. J'ai envie de croire à des bons films, mais c'est terminé. La confiance a été brisée. Et tout ce que je vois, c'est un respirateur artificiel qui aimerait me faire du bouche à bouche. Et même avec amour, je mets pas la langue. Phase 5, on parle de phase 5. Rendez-vous compte, ils ont déjà annoncé les trucs de la phase 6, de la phase 7. Ça fait rêver. Dans l'état actuel des choses, avoir de l'espoir me semble une option très éloignée de toute forme de réalité. Je sais pas ce qui m'est arrivé, faut que je check les rushs de l'émission. J'espère que j'ai pas dit de conneries. C'est lundi, c'est l'heure du bistrot d'Andrew, le dernier que nous ayons tourné pour l'instant, alors profitez-en. Toujours le même concept, 4 auditeurs de l'émission, 4 films, Andrew pour les rassembler dans un bistrot, les guider. Andrew, c'est à toi.
C'est une excellente question.
Qu'est-ce que vous voulez comme remontant?
Je vous fais confiance.
Bon.
Bonjour à tous et bienvenue dans le bistrot d'Andrew. Comme chaque semaine, je vous ai invité pour me parler d'un film. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de...
Baptiste.
Nathan.
Hassan.
Charles-Antoine.
Bah merci d'être venu. Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je suis maroquinier, je fais des sacs, des portefeuilles en cuir, j'ai ma petite entreprise.
Oh waouh, nice. Toi?
Étudiant,
okay.
Simplement. En théâtre, simplement.
Ah, nice.
Oui.
Ah, je comprends pourquoi ton film.
Oui, voilà.
Et toi?
Bah moi, je suis étudiant en droit à l'Université de Montréal, je suis en maîtrise.
Et toi?
Photographe musical.
Ah, sympa.
Ouais. Photographe musical?
Bah, spécialisé dans l'industrie de la musique.
Ok, d'accord. Alors, bah aujourd'hui, on va commencer avec Nathan. Tu vas nous parler de quel film?
Donc aujourd'hui, je vais parler de Antigone de Sophie d'Erasme. Premièrement, bah, j'ai un background en théâtre. Fait que moi, le conte d'Antigone, malgré que je l'ai jamais lu, même si mes profs voulaient, je connaissais quand même vaguement l'histoire. Ben, très grosso modo, je l'ai joué aussi. C'est l'adaptation du conte d'Antigone, donc Antigone qui est la fille de Zéproie. Donc dans cette adaptation-là, ça va être une fille d'immigrés nouvellement arrivée au Québec, et que ses deux frères, un va mourir et l'autre va se faire emprisonner puisqu'il a voulu défendre celui qui est mort. Et donc elle va libérer son frère et par de là, elle va se faire arrêter puis il va y avoir un gros mouvement de soulèvement en fait de la part des jeunes. Donc c'est comme un genre de cri d'appel des jeunes. J'ai pas envie de dire la fin, j'ai envie de garder la surprise pour les gens, c'est vraiment...
Mais est-ce que c'est une réinterprétation moderne ou c'est ça, parce vraiment que, tiré du livre?
Oui, parce qu'en 2018, il y a eu une adaptation québécoise, et là, c'est là que ça m'a porté un petit peu à confusion, parce que l'autrice, son nom, c'est Déraspe, comme la réalisatrice. Donc, en gros, c'est une interprétation de la réinterprétation québécoise de 2018.
OK!
Donc c'est pour ça que je trouvais que le background était super intéressant, puis ce qui était vraiment le fun, c'est que c'est tout son message adapté aux jeunes, parce que souvent, mettons, dans l'industrie du cinéma du Québec... Les films souvent adaptés aux jeunes, le message passe assez durement, puis souvent ça va s'arrêter à ce public-là, donc les parents qui veulent aller voir le film avec eux, ça passe suffisamment moins bien. Puis c'est aussi au niveau du jeu de Naïma Richie, c'est ça. Ça a été vraiment une grande révélation pour moi dans son rôle d'Antigone, parce qu'Antigone, c'est pas un rôle facile à camper. C'est difficile. On en voit des élèves justement passer par cette étape-là dans leur carrière. Puis ça a été vraiment une révélation. Puis c'est aussi ça, en fait, qui fait que le jeu va aller en décalage avec justement ce qui fait en sorte de ce film-là, qui est une bonne interprétation de la tragédie. C'est elle qui va amener justement tout ce pan tragique dans le jeu, qui va faire en sorte qu'on sort un petit peu du réel, puis qu'on va aller dans une genre de... dans un conte de fées, dans un univers québécois de 2019.
J'avais joué ce truc à l'école.
Ouais.
C'est là que je me suis dit, fais jamais de théâtre, mec.
Non, c'est ça.
J'étais une chiasse.
Ça passe ou ça casse.
Moi, j'ai juste un truc aussi, parce que je trouve que généralement, ces réinterprétations de vieilles pièces, de vieux mythes, tout ça, dans l'ère moderne, souvent, ça passe ou ça casse.
C'est ça.
Moi, je suis par exemple pas très très fan du Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, par exemple, mais pour le coup, Antigone, c'était une très 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 belle révélation pour moi, un très très gros coup de cœur.
Surtout qu'il y a déjà eu une grosse prise de risque juste par les noms originaux.
C'est ça.
Donc
c'est
de Polynice, Aimon, Antigone, c'est Ismène qui ont été réintégrés. C'est pour ça que j'ai trouvé que de parler justement d'immigration puis d'intégration dans la société québécoise. C'était le plan parfait.
Une réalité un peu intéressante parce que ça reste très ancré dans le réel et en même temps, il y a un peu un flou déjà, même au niveau de l'origine des personnages, parce qu'on ne mentionne jamais leur origine. On sait que c'est un pays arabophone, probablement du Maghreb, peut-être la Tunisie,
vu
leur accent, je pense que c'est la Tunisie. Mais ce n'est jamais mentionné, c'est juste ils disent le bled, l'autre pays d'origine.
Ouais.
Et je trouve que c'est une approche assez intéressante parce que la réalisatrice elle est québécoise, je pense qu'elle n'est pas immigrée. Ça lui permet d'avoir un recul dessus. C'est un peu ce qu'avait fait Denis Villeneuve quand il avait adapté Incendie.
Oui, Incendie.
C'est ça que j'ai pensé. Mais l'œuvre de Wajdi Mouahad en général, qui est le réel.
C'est ça, oui. Le dramaturge.
L'écrivain théâtre.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Puis c'est surtout. C'est des réinterprétations des mythes grecs. Ouais. Mais juste ce que je voulais dire, c'est que Antigone, c'est déjà une réécriture. C'est un truc de 1980.
C'est Jean Anouilh, c'est les années 60.
C'est aussi Electre qui est une interprétation de sa part dans le théâtre aussi.
Bon, on va profiter pour passer à un autre film. On part avec Hassan pour quel film tu veux.
J'avais choisi Phantom of the Paradise de Brian De Palma. J'ai envie de revenir un peu sur mon rapport à Phantom of the Paradise parce que c'est un film que j'ai découvert très 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 jeune. Je pourrais pas dire j'avais quel âge, mais mon père il avait l'irresponsabilité et je le remercie pour ça de me montrer des films très jeunes.
On a le même.
Mais du coup, il y avait plein de films qui, genre Jurassic Park, Jaws, tout ça, dont je connaissais vraiment l'existence parce que c'est des films très connus, très cultes, tout ça. Phantom of the Paradise, c'est un peu moins connu. Et du coup, pendant longtemps, pour moi, ça a été un titre dont je me souviens quelques scènes, mais un peu un flou dans ma tête. Et je l'ai redécouvert il y a 3-4 ans, je pense, il y a 3 ans peut-être, pendant le Covid. Et c'est fou en fait, j'adore ces sensations où on redécouvre une œuvre, que ce soit une musique ou un film, et là on se prend des souvenirs dont on avait complètement oublié, surtout Phantom of the Paradise, c'est un film qui est très très musical. Je vais revenir un peu sur ce que c'est le film parce que j'ai beaucoup pas encore assez parlé. Exactement. En fait, Phantom of the Paradise, c'est une relecture du Fantôme de l'Opéra comme on le voit dans le nom bien sûr, mais il y a aussi le mythe de Faust, le portrait de Dorian Gray exactement de Oscar Wilde aussi. Phantom of the Paradise, c'est l'œuvre de deux hommes. C'est l'œuvre de Brian De Palma, déjà, qui a écrit et réalisé le long métrage, bien sûr. C'est un réalisateur très culte, mais c'est pas son film le plus connu, quand même, Phantom of the Paradise.
Ah, attention, alors, on a une intervention.
C'est juste que, quand on parle de De Palma, le film qui revient le plus, quand même, c'est quand même Scarface, quoi.
Bah ouais.
Voilà.
C'est sûr.
Mais je suis très content qu'on parle de Phantom of the Paradise parce que c'est un de mes films préférés de tous les temps.
Je sais.
Il y en a fait dans une de ses vidéos.
Je suis pas surpris. Et je me permets d'ajouter comédie musicale. Parmi les choses que j'adore dans le film, il y a la présence de la comédienne Jessica Harper. Jessica Harper, elle a eu une toute petite carrière et elle a joué que chez des réalisateurs incroyables. Elle a joué dans Suspiria de Dario Argento.
Suspiria, elle était dans la suite du Rocky Horror aussi.
C'est ça, elle a joué dans Phantom of the Paradise.
Bah, déjà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des idées de mise en scène toutes les deux minutes. Le film, il a un peu vieilli, il est un peu daté, mais en fait, c'est ce qui lui donne son charme aussi.
Mais t'as pas dit ça parle de quoi?
Ouais,
j'ai toujours pas parlé de ça parle de quoi.
Tu résumes le film.
Ok, c'est l'histoire d'un jeune musicien qui s'appelle Winslow Leach, qui se fait voler en gros sa partition par un grand producteur qui s'appelle Swan, qui veut ouvrir un peu son paradis.
Interprété par Paul Williams.
Il se fait frame par la police, il se fait défigurer, et puis il revient pour hanter le paradise, comme c'est le cas dans le Fantôme de l'Opéra. Et ce que je voulais dire aussi sur De Palma, c'est que t'as des idées de mise en scène toutes les deux minutes. Il y a une utilisation du split screen qui est vraiment propre à lui. Il y a surtout un usage des miroirs vis-à-vis du personnage de Swan qui est très 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 inventif et qui fait beaucoup de rappels bien sûr au Fantôme de l'Opéra. Mais c'est aussi l'œuvre d'un deuxième homme qui est Paul Williams, dont on a beaucoup parlé, qui de base lui était un compositeur de films, si je ne me trompe pas, il avait composé pour les Muppets.
Il n'a pas juste fait des films, il a aussi fait des albums solo.
Oui, c'est vrai.
Paul Williams est aussi sur l'album Random Access Memories des Daft Punk.
Et on avait dit une fois par émission.
Daft Punk a été inspiré par le Fantôme du Paradis, bref.
Mais moi, je veux juste aussi revenir sur la musique de Paul Williams qui est vraiment... En fait, parce qu'il a réussi, c'est de la musique rock bien sûr, mais il donne en fait une identité à chacun des morceaux, dépendamment de qui la chante, de qui l'a écrit. Il y a aussi un écho thématique des paroles des chansons au long métrage bien sûr, qui parle de la vie après la mort, qui parle de signer un pacte avec le diable, tout ça. Parce que c'est un film qui parle aussi, qui est une critique de l'industrie, de la musique et du entertainment. Ouais.
Du coup, on va passer à Baptiste. Quel film tu vas nous parler ?
Moi, je vais essayer de vous parler de Manifesto. Je l'ai vu il y a genre 3 semaines, là, c'est un ami qui est venu chez moi et puis il m'a proposé de regarder ça, donc j'avais vraiment aucune info sur le film avant de le voir. C'est un film qui date de 2016 avec Kate Winslet.
Et non, c'est Kate Blanchett.
Kate Blanchett.
T'avais dit que t'allais faire l'erreur.
C'est un film de 2016 avec Kate Blanchett et c'est un réalisateur qui vient du monde de l'art moderne en fait. Ça a d'abord été présenté dans les musées d'art moderne, donc entre autres au MAC ici à Montréal. C'était des films qui jouaient en simultané et il y a eu un montage a posteriori pour en faire un film. Donc le film c'est Kate Blanchett.
Rôles.
Le film, c'est Kate Blanchett qui joue 13 rôles différents. Tous ses monologues, c'est elle qui dit des manifestes artistiques et politiques. Une déclaration d'intention écrite, que ce soit le manifeste du parti communiste, qui est sûrement le plus connu, le manifeste du surréalisme. Donc, il va à travers 13 manifestes, un peu plus que ça, en fait, parce qu'il fait des collages avec différents mouvements. On va passer, en fait, au travers de différents courants artistiques et politiques pour amener une réflexion, finalement, sur ce qu'est l'art et la vie.
Il faut être concentré pour voir le film, j'ai l'impression. Là.
À mon avis, il ne faut pas être trop concentré, justement. Il faut être sur un point qui s'appelle la zone où tu laisses passer en même temps l'information. Ouais. Parce que tu ne peux pas tout prendre. C'est trop dense, c'est trop riche. Tu prends ce que tu as à prendre dedans. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est des réflexions sur l'art qui vont se balancer comme ça. Et finalement, il y a quand même une narration qui est créée à travers ça que j'ai trouvé intéressante parce que en arrivant comme ça à froid là-dedans, au début je vois juste les noms, donc je me dis oui, ça s'appelle Manifesto, je vois les noms de Tzara qui est du mouvement Gamart. Dada, Lars von Trier avec Dogme
95,
un numéro,
c'est Dogme 95.
Dogme 95, voilà. Avec Festen qui est un peu le film iconique de ce mouvement là.
Ouais, parce qu'il a, en fait Lars von Trier a co-créé le Dogme 95 avec Thomas Vinterberg.
Exactement.
Qui a fait
Drunk.
Et le Dogme 95 qui est en gros une suite de règles que tu dois respecter pour faire un film suivant tel ou tel principe, genre ça doit être tourné dans un seul décor, il faut pas apporter des objets extérieurs à ce décor, il faut que ce soit tourné avec telle caméra. C'est vraiment de la branlette intellectuelle du milieu des années 90, mais on adore Von Trier et Vinterberg.
C'est bien qu'ils disent ça parce que branlette intellectuelle, c'est un peu ce que certaines personnes peuvent reprocher au film.
Oui.
Carrément, ouais.
Pas franchement, faut le prendre comme ça vient, faut juste l'accueillir, je dirais. L'accueillir, le film.
Bah, moi, j'aimerais dire, en fait, c'est un peu l'adaptation cinématographique du Qu'est-ce que l'art? Vous avez 4 heures. Non, je fais ça. Non,
Non, mais il y a un petit
truc. Je vais dire un truc. Le concept est hyper intéressant. Il y a des moments où j'étais un petit peu en dehors, je me disais mais qu'est-ce qu'on regarde et tout ça. Mm-hmm. Mais pour moi, le film, il se rattrape très 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 bien par sa scène finale dans la salle de classe où justement on revient sur le Dogme 95. Mm-hmm. Et ouais, c'est la scène la plus réussie du film.
Au-delà de la performance de Cate Blanchett qui est vraiment bonne.
Super, ouais.
Mais visuellement, c'est incroyable. Moi, quand j'ai vu le film, je savais pas d'où ça venait, ce que c'était. Et j'étais là, mais où est-ce qu'il a trouvé des décors comme ça? Et en fait, tout a été tourné en 2 semaines. À Berlin et dans les alentours.
Oui, tout le film a été tourné en 2 semaines. J'avais lu ça, c'est vrai. Non,
déjà là, le nombre de monologues qu'elle a dû apprendre pour ça.
C'est flaque.
On peut en profiter pour transitionner sur Charles.
Bonjour.
Pour nous parler de ton film. Okay.
Avant d'expliquer pourquoi j'ai choisi ce film-là, c'est que moi, quand je parle de films préférés, j'ai un peu la même définition que Victor qui a fait dans sa vidéo. C'est que pour moi, les films préférés, c'était les films les plus marquants. Tu sais, les premières fois que tu vois quelque chose au cinéma. Tu sais, je prends un exemple. La première fois que j'ai vu Les Amours Imaginaires de Dolan, j'avais jamais vu de film avec des ralentis aussi beaux. Tu sais, oui, il y a un repris du Wong Kar-wai, mais moi, je savais pas c'était quoi. Donc, les premières fois sont les plus marquantes. Comme Phantom of the Paradise et comme Tout déconne, qui est le film que je vous présente aujourd'hui. C'est un court-métrage de 5 minutes réalisé par François Jaurès, écrit et mettant en vedette Guillaume Lambert, qui est un acteur extraordinaire, qui est devenu aussi cinéaste et qui a réalisé notamment Niagara avec François Pérusse, qui est un nom d'acteur, mais qui est un humoriste pour moi.
Wait. François Pérusse a joué dans un film?
Ouais, Niagara, man.
Non, parce que moi, je le connais, j'ai grandi avec les 2 minutes du peuple, tu vois. Oui. Mais l'imaginer en tant qu'acteur dans un film, ça me tue, quoi.
Je te jure, ça fonctionne à merveille.
D'accord,
parce qu'il utilise le concept.
Il a pris le micro, je suis mort.
Là, ça lui appartient.
J'ai attendu ce moment pendant des...
Là, il va nous chanter Phantom of Paradise.
Là, je suis en PLS, là.
Non, désolé. OK. Tout déconne est un court-métrage réalisé par François Jaurès qui met en vedette Guillaume Lambert et qui dure 5 minutes. Et ça a été très marquant pour moi, autant pour sa mise en scène. Parce qu'en gros, c'est un long-métrage de 1h30 raconté en 5 minutes. C'est l'histoire d'un personnage qui perd sa relation et qui choc émotionnel et qui vit plusieurs aventures. C'est 95 scènes en 5 minutes. Et moi, ça a été un choc parce que j'avais jamais vu ce genre de mise en scène.
95 scènes en 5
minutes. Ouais, c'est des courtes. Des scènes de 1 seconde, tac, tac, tac. Tu sais, première scène, il se laisse. Deuxième scène, il est dans son lit. Il va dans un bar. Puis là, il plonge toute sa haine et tout ça. C'est... Le sujet est un peu mal vieilli, la manière de le traiter, mais la mise en scène a tellement été marquante. J'aspire éventuellement à la scénarisation et il y a plusieurs projets que j'ai abandonnés parce qu'au final, j'avais l'impression de réécrire Tout déconne, cette manière de faire le montage très, très rapidement. Et c'était extraordinaire. Puis ça a été une belle porte de visibilité pour Guillaume Lambert parce que le film a fait un...
Il a fait Sundance, il me semble.
Ouais, exact. Oh, il a fait plusieurs... Telluride, si je me trompe pas aussi. Ça l'a gagné plusieurs prix internationaux. Ça l'a gagné prix Jutra, qui est aujourd'hui le Gala Québec Cinéma. Et moi, je me rappelle voir ça jeune, Tout déconne, c'est bizarre. Et je tombe là-dessus à un moment donné sur Vimeo.
Ouais, c'est ça.
2014, ouais. François Jaurès, après, a fait plusieurs courts-métrages qui sont allés à l'international, des séries télé. Puis Guillaume Lambert, après ça, ça a été une expérience qui l'a permis une naissance d'un créateur parce que dans les années 2010, Denis Lavant était de passage à Montréal et Guillaume Lambert a réussi à tourner une séquence avec lui. Cette séquence a mis naissance à son premier film qui s'appelle Les scènes fortuites avec François Pérusse.
Plus tard, il y a eu une adaptation de ce court-métrage en long finalement ou pas?
Non, mais c'est je pense que si le film était vraiment un long-métrage, il deviendrait ennuyant.
Ça marcherait pas. Okay, de toute façon, la plupart des courts-métrages qui sont adaptés en long, ça marche pas.
Plusieurs personnes ont déjà adapté des histoires de la même manière. Au final, c'est juste un homme triste qui vit mal dans sa masculinité. C'est un peu banal, fait que c'est plus intéressant la manière que ça a été abordé, très très rapide. Et en même temps, ça l'a tellement marqué beaucoup que je pense que aucun cinéaste pourrait refaire ce qu'il a fait parce que ce serait facilement comparable.
Ben, sur ce, merci d'être venu
parler
un peu de cinéma, ça fait du bien.
Oh, ouais.
Et je vous dis à bientôt, puis moi je repasse le micro à Victor. C'est parti.
L'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Est-ce que vous avez une question sur l'actualité ?» Et si vous en avez une, eh ben, je la sélectionne et elle finit par passer dans l'émission. Le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram. Le lien est en description. Et aujourd'hui, la question nous vient de Sacha RBDN qui demande « On est d'accord que c'est énervant ce qu'elle a dit Millie Bobby Brown ?»
Énervant, c'est quand même un très très grand mot.
Qu'est-ce qu'a dit Millie Bobby Brown pour rendre fou toute une tripotée de gens sur les réseaux sociaux ? Pour que ça parte autant en couille, il faut que ce soit franchement très très grave. Interrogé dans dans le tabloïd The Sun pour la promo de son dernier truc sur Netflix, on lui a posé une question sur les films qu'elle regarde, les films qu'elle aime. Et elle a déclaré ce qui suit, je la cite, « Je ne regarde pas de films. On me dit souvent que je devrais absolument regarder tel ou tel film parce qu'il pourrait changer ma vie. Et moi, je me dis juste, combien de temps je dois supporter ça? Parce que moi et mon cerveau, on n'aime même pas regarder mes propres films. Faut que je fasse autre chose en même temps. Soit je mange trop parce que ça m'ennuie, ou je fais de la pâtisserie, je m'occupe du chien, ou je suis sur mon ordinateur. » Voilà la déclaration. Une déclaration qui visiblement énerve certaines personnes, quand je regarde notamment la question qu'on me pose aujourd'hui. Et je comprends, dans un sens, quand t'es comédienne et que t'arrêtes pas de dire aux gens « regardez les films dans lesquels je suis » alors que toi-même t'en regardes pas, c'est un peu antinomique, c'est un peu « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Mais on va essayer de se poser les bonnes questions maintenant, plutôt que de être dans des réactions du style « oui, la génération TikTok, Uber Eats, ils savent plus apprécier le cinéma ». Bref, voilà, on va éviter ça. Petit 1, est-ce que regarder des films fait de toi un meilleur artiste ? Pas nécessairement. Sinon, je peux vous dire qu'il y a un paquet de gens sur le Twitter ciné qui seraient sur les planches plutôt que de commenter ce genre de déclaration. Oui, mais il y a plein de gens passionnés par le cinéma qui aimeraient avoir sa situation, oui. Mais la passion, ça fait pas le talent, en fait. Les deux sont pas reliés. On connaît plein de gens talentueux qui matent pas de films. Vous savez qui j'ai envie de citer ? Werner Herzog. Werner Herzog, il a déclaré plus d'une fois ne jamais regarder plus de 3 films par an. Et que, au contraire, ce qu'il adore bouffer, c'est la télé-réalité merdique. Werner Herzog, c'est pas le dernier des clampins. On peut pas dire que sa non-activité face à des longs métrages fait que son cinéma est moins intéressant. Pourtant, personne le critique là-dessus. Et concernant la question de ne pas se regarder dans ses propres films, c'est vraiment commun. Il y a tellement de comédiens et de comédiennes dans ce cas-là. Je sais pas, Joaquin Phoenix, Adam Driver, Julianne Moore. C'est que des gens qui ont déclaré en interview ne jamais se regarder parce qu'ils détestent ça. Petit 2, Millie Bobby Brown, elle joue la comédie depuis qu'elle a 9 ans. C'est-à-dire que jouer dans des séries, jouer dans des films, c'est son quotidien depuis sa toute prime jeunesse. Tu m'étonnes donc qu'elle voit plus ça comme un travail que comme un plaisir personnel. Je sais pas, t'es chirurgien, tu viens de passer ta journée à opérer, tu rentres pas chez toi pour afficher sur ta télé des vidéos d'opération en 4K. Non, t'as envie de regarder autre chose. Mais après, là, je suis très gentil, je pourrais être un peu taquin. Petit 3, est-ce que Millie Bobby Brown fait vraiment des films? Non, parce que, à part ses courtes apparitions dans les films pourris américains Godzilla, tout ce qu'elle a fait, c'est du produit de plateforme, du produit. C'est Stranger Things, c'est Enola Holmes, c'est Damsel, c'est Electric State, bientôt encore sur Netflix. Elle a été élevée et éduquée à travers une culture qui prône le cinéma comme un produit de consommation et pas une forme d'art. C'est son travail, c'est comme ça qu'elle travaille. Forcément que ça a des conséquences après sur ses appréciations personnelles. Ou alors, et là je lis entre les lignes, bah, elle a juste un trouble de l'attention. C'est complètement possible, ça existe. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de mal à rester devant un film et à rester concentré devant un film. Faut se forcer, c'est compliqué. Ça existe. Et c'est pas grave. Et d'ailleurs, ça devrait être mon point final. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir ce que Millie Bobby Brown fait ou ne fait pas? Il y a 1000 sujets bien plus intéressants que ça. Et on est tous à se toucher sur est-ce que tel ou tel comédien regarde ou pas des films et, mais est-ce que ça change au final nous ce qu'on va regarder? C'est pas grave, c'est un non-sujet. C'est une gamine de 20 ans qui regarde pas de films. Ok. Je veux dire, ça vous empêchera pas, vous et moi, de continuer à regarder des films de la manière dont on a envie de le faire. Et c'est pas une position relativiste. C'est une position de avant de savoir ça, est-ce que quiconque jugeait son talent de comédienne à l'aune des films qu'elle ne regardait ou qu'elle ne regardait pas? Non, on la regardait jouer, on se disait « oui, bah elle est plutôt douée », mais on s'en foutait un petit peu de ce qu'elle fait chez elle. Tant qu'elle fait son boulot et qu'elle le fait bien, quand elle rentre chez elle, moi je m'en cogne de ce qu'elle fait. Elle méprise pas le cinéma, elle est une part intégrante de cette industrie. Non, le seul truc qu'elle a critiqué à la limite, c'est son cerveau et sa capacité d'attention. Donc est-ce que c'est énervant? Je pense surtout que c'est un non-sujet.
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est vous qui passez dans l'émission. Oui, en effet, le vendredi, je vous donne la parole. Pour ça, il suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. Le lien est en description. Vous pouvez envoyer un audio sur un film récent ou non, que vous appréciez ou pas. Vous parlez de ce que vous voulez tant que ça fait environ 3 minutes. Vous l'envoyez par mail et à la fin de la semaine, j'en sélectionnerai un. Et aujourd'hui, on part dans le désert avec des gros muscles et des gros camions. Oh là 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 là. On va parler du salaire de la peur.
On a une poche de gaz sous le puits qui alimente l'incendie. Le seul moyen de l'éteindre, c'est de la faire exploser.
Je vais vous faire une confession tout de suite avant de commencer, parce que je vais pas du tout le citer dans cette partie critique, mais je n'ai pas vu Sorcerer de William Friedkin. Voilà, il y a des films qu'on rate, et ce remake incroyable du salaire de la peur, Personnellement, je l'ai raté, il faut que je le rattrape. Par contre, j'ai vu Le Salaire de la Peur, le film original de Clouseau des années 50, et connaissant donc ce chef-d'œuvre, je me suis interrogé quand j'ai vu les premières annonces concernant son remake Netflix. Qui plus est, un remake fait par Julien Leclerc, un réalisateur dont j'avais plutôt apprécié à l'époque L'Assaut en 2011, mais qui après s'est illustré avec pas mal de films d'action série B assez oubliables comme Braqueur, comme Lucas avec Jean-Claude Van Damme, Henri-Georges Clouseau. Un univers, une galaxie. Ici donc, on retrouve 4 mercenaires en Afrique engagés pour une mission périlleuse, à savoir transporter sur 800 km de route merdique des camions contenant de la nitroglycérine afin d'éteindre un incendie qui menace un puits de pétrole. Le pitch est connu, c'est celui du film original à quelques différences près, et ce sont ces quelques différences qui font passer Le Salaire de la Peur d'un chef-d'œuvre à une sacrée merde. Je sais pas comment vous le dire autrement, ce nouveau Salaire de la Peur est consternant. Mais vraiment consternant, c'est le mot. Il y a d'ailleurs plusieurs moments où j'ai pas pu m'empêcher d'avoir des éclats de rire tellement c'était mauvais. Les premiers rires sont arrivés à cause des dialogues. Parce que c'est l'enfer. C'est surécrit en permanence avec de la surexposition forcée dans tous les sens. C'est vraiment le pire du petit manuel du film actionneur sans cervelle. Et donc t'as beau engager des bons comédiens, si tu leur files un texte merdique à servir, ben ils peuvent rien faire. Celui qui s'en sort le mieux, à la limite, c'est Fianso, qui est ultra charismatique. Le truc, c'est que le charisme de Fianso est inversement proportionnel au regard bovin de Franck Gastambide. Alban Lenoir, le pauvre, le corps d'action français, il a aucune place pour exprimer son art. Dès qu'il combat, c'est très très mal filmé. C'est improbable de faire un film d'action où tu ne ressens quasiment jamais l'impact des coups. La faute aussi à un montage qui est très très mal foutu et qui dessert en permanence le travail du comédien. Globalement d'ailleurs, l'action est assez molle. Ils essayent de te mettre une scène qui fait pampan à peu près toutes les 7 à 10 minutes, mais on s'ennuie assez rapidement. Parce que je vais être honnête, moi niveau scénario débile, je suis prêt à accepter plein de trucs. Hein. Je suis prêt à accepter la relation entre les deux frères parce que ça crée une véritable tension. Je suis capable d'accepter le côté bad guy du personnage de Fianso. Ok, tout ça je peux accepter. Mais le personnage d'Anna Girardeau, il sert à quoi dans ce film ? Non, parce que je l'adore, hein, je l'ai bien vu qu'elle était sur l'affiche. Mais si ça vous fait tant chier d'écrire des personnages féminins solides, vous donnez pas la peine, n'en écrivez pas. Sa présence est un prétexte, un love interest sans saveur qui doit montrer ses seins au bout de 5 minutes de film et qui va avoir un moment de bravoure sur 2 heures d'action. Sinon, c'est vraiment de la figuration où elle crie à côté. Et je sais que c'est pas bien de comparer, mais c'est dans la comparaison que tu te rends compte que tous les choix qui ont été faits en termes de pure production sur ce Salaire de la Peur nouvelle génération desservent le film comparé à l'original. Pourquoi Le Salaire de la Peur de Clouseau, c'est bien? Déjà parce que tu crois à ce que tu vois. C'est-à-dire que le premier plan où tu vois le méga incendie avec ces tout petits humains qui s'affairent autour, je suis désolé, tu trembles des genoux. Quand Yves Montand manque de s'effondrer sur un pont avec les planches en bois qui se cassent la gueule, ouais, il y a un moment où tu flippes, il y a un moment où t'es tendu. Ici, tout laisse place à des CGI. Et en plus, des CGI pas très bien foutus. J'ai repéré à 2-3 moments, il manque des frames dans les exports qu'ils ont fait. Ils ont merdé leur CGI dans le film. Comment est-ce que je peux rentrer en tension avec un long métrage dont je ne crois aucune image? Et pour le coup, si on veut parler de la tension dans le film, dans le premier, qu'est-ce qui nous tend? C'est la route. C'est la mise en scène. C'est le fait que on est obligé d'aller doucement, qu'on avance la goutte au front, que en permanence on est sur le fil, qu'on risque d'exploser. Ici, les camions foncent en permanence sur des routes pourries à 180. Vraiment, ils en ont rien à foutre. Ils se font tirer dessus, il n'y a jamais une balle qui touche la nitro. La route n'est plus un ennemi. La nitro n'est plus un ennemi. T'es chargé d'explosifs, mais c'est pas un risque. Et du coup, pour compenser, on te crée une sorte de pseudo compte à rebours, mais qui va très rapidement être délaissé. Le pire là-dessus, le pire, c'est quand il commence à singer des scènes de l'original, genre avec le lac de pétrole ou le gros caillou qui bloque la route. En fait, ce qui était des obstacles insurmontables et qui étaient vraiment les plus gros moments de tension du film original sont ici des formalités parfaitement oubliables. Et le pire à mes yeux, vraiment le plus gros écueil que je trouve à ce long métrage, c'est l'univers qui est dépeint. Parce que dans l'original, les conducteurs, c'est pas des bons gars. Ils sont moralement troubles, ils ont un passé qui est très moyen, ils ont des comportements particulièrement répréhensibles, ils font des actions dans le film qu'on a envie de critiquer régulièrement. Ils servent à aucun moment une cause noble, ils sont là pour le pognon et puis c'est tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est des héros, c'est une ONG, c'est des gens avec un cœur tendre. Alors oui, qui ont eu 2-3 conneries dans le passé, mais vous inquiétez pas, les méchants vont mourir, les traîtres vont avoir leur arc de rédemption, et à la fin, des enfants vont courir avec le sourire dans le désert. Littéralement, c'est le dernier plan du film. On est passé d'un récit cruel qui interroge à un film lisse à gerber. En fait, c'est pas juste un remake banal, c'est que ça fait mal tout ce que ça imagine innover. Où est la peur du titre? Appelez ça, je sais pas, le salaire de la bravoure, le salaire de la tendresse. gentillesse, le salaire de la gentillesse. Mais appelez pas ça le salaire de la peur. Même la critique politique de l'original a été complètement délaissée pour faire place à un truc d'action basique pour les 10-12 ans. C'est aberrant de faire ça. C'est aberrant de pas comprendre autant le matériel original. C'est aberrant de la part de Netflix d'obliger peut-être les gens à faire un film aussi lisse, aussi tendre, aussi politiquement correct. Et c'est pas parce que vos personnages sont des connards qu'on va moins apprécier le long métrage. C'est un non-film. Voilà. C'est aberrant de faire ça. C'est tout ce que j'allais dire. C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Oui, le pire podcast cinéma, pas le meilleur podcast cinéma, et on prétendra jamais l'être, croyez-moi bien. Sinon, je serai obligé de faire des premières parties comme ça en permanence, ça va être absolument terrible. Non merci, ça ira. Je vous promets que la prochaine émission sera beaucoup plus normale que celle d'aujourd'hui. Donc on se retrouve mercredi pour une nouvelle émission. En attendant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore...
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.